Comme c'est le cas tous les jeudis à ce moment-ci, au lendemain de leur dernier épisode de balado de La Poche Bleue, on accueille notre ami Guillaume Latendresse. Bonsoir, mon Guillaume.
Salut, Mario.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Les gens te parlent de quoi là, aujourd'hui, toi, là?
Oh, c'est bol. Aujourd'hui, c'était les secondaires 4 qui étaient à l'école. Fait qu'on n'a pas vu les secondaires 5, mais je pense que tout le monde parle un peu du même dossier du Canadien et les Québécois. Je vous écoutais, toi et Mario. Je pense que c'est the talk in town.
Ouais, une couple de fois par année. Mais c'est bien pour dire, hein?
À chaque lendemain de repêchage.
C'est drôle parce que quand je parlais de créer une équipe Québec, là, il y avait beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Je me souviens d'un début de 110%, là. J'étais parti sur une envolée un moment donné, puis j'avais fait le line-up d'équipe Québec, puis tout le monde comme était comme un peu contre moi sur le plateau ce soir-là, tu connaissais le show un peu.
Ouais.
Puis les Tchèques, la République Tchèque et Dominique Hašek venaient de gagner l'or à Nagano avec la moitié du club qui ne jouait pas dans la Ligue nationale. Fait que tu sais, quand tu n'oses pas croire en tes propres capacités, faut pas que tu demandes aux autres de croire plus que toi tu y crois toi-même. Et on ne croit pas beaucoup tant que ça en nos capacités parce qu'on se déprécie. J'ai l'impression plus souvent qu'on s'apprécie, mais voilà. C'est ça que j'avais envie de dire, puis cela dit, c'est un sujet, puis c'est drôle, les gens du hockey, vous autres, on dirait que c'est un sujet qui vous passe 10 pieds par-dessus la tête. Pourtant, toi, un francophone repêché au Québec, un gars qui vient d'ici, je suis sûr que tu vas me dire que ça te passe 10 pieds par-dessus la tête, qu'il en repêche pas. Hein, Guillaume?
T'as jamais si bien dit, Mario.
et pourquoi?
Ben parce que moi au final là, ce que je veux là, tu sais, on met tellement d'efforts. Le Canadien il passe des heures, des mois à évaluer des joueurs, à les mettre sur une liste pour c'est qui le meilleur joueur de 1 à 300. Puis quand on arrive au repêchage, puis j'ai le choix numéro 16, puis c'est lui, on est rendu à ce joueur là. Peu importe la position, peu importe d'où il vient, peu importe lequel langage qu'il parle, pour moi tu dois prendre le meilleur disponible. Je te dis pas si sur ta liste, Lapierre est classé 3e, puis Goulet est classé 4e. Là, on s'entend. Mais quand t'as une différence quand même marquable un peu entre les deux, t'as pas le choix d'y aller avec ton joueur, puis tu peux pas laisser l'émotion ou le fait francophone ou autre rentrer dans la partie. Ça, c'est mon opinion personnelle. Si j'étais dirigeant du Canadien, j'agirais de la même façon. J'irais avec la liste que j'ai bâtie pour faire mon équipe avec le nombre de Québécois que ça comportera. Puis le marché
mais
des
la
joueurs...
liste, là, Guillaume, excuse-moi de te couper, mais la liste, c'est le bouclier, là. Je veux dire, la liste. Hey, je veux dire, c'est qui a fait la liste, pas le Saint-Esprit, là?
Non, je comprends.
Et tout est dans l'œil de celui qui regarde.
Oui, je comprends, mais c'est là que t'engages un gars en Russie, t'engages un gars en République tchèque, t'engages un gars au Québec, t'engages un gars aux States, t'engages, tu sais, t'as 15 scouts autour de la table qui parlent puis qui disent, bon, mais voici comment qu'on va établir notre ranking, comment on va établir là, la liste de repêchage selon ce que nous, on recherche. Parce qu'après ça, cette fameuse liste-là, est différente pour chaque organisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les Sharks de San Jose ont pas la même philosophie d'entreprise, ont pas la même vision que le Canadien de Montréal. Fait que si on compare les deux listes, on peut être complètement dans le champ d'un bord puis de l'autre. Puis là, c'est là qu'il y a des fois des recruteurs qui vont dire, ah, tu vois, nous autres, Lapierre, on l'avait avant Goulet. Mais oui, parce que t'as pas la même philosophie d'entreprise puis tu recherches pas le même type de joueur. Fait que c'est pas comparable les listes de chaque équipe. Donc, pour moi, on se fie à la liste que le Canadien a fait autour de la table avec les gens qui connaissent la philosophie d'entreprise, qui connaissent qu'est-ce qu'on veut comme joueur et comme type, puis on repêche le meilleur disponible, toutes positions confondues.
Oh! Oh! Mesdames, messieurs! À 19h05, si la tendance se maintient, le gouvernement, non, mais je veux juste vous annoncer la signature.
J'avais jamais entendu, c'est excitant, ça!
Josh Anderson, sous contrat pour les 7 prochaines années.
Hein?
38,5 millions de dollars. Alors, 7 ans, 38,5 millions de dollars. 7 fois 5, ça fait toujours bien 35, ça. Fait que c'est 5 millions par année et plus 5,4 par année pour Josh Anderson. Merci, là. Coéquipier Jérémy Rainville, avec l'information en studio. T'aimes-tu la petite musique de Breaking News, mon Guillaume?
Ouais, j'ai-tu gagné quelque chose? Et, hey, je suis tombé nerveux, là. J'ai dit, un souper avec Mario. Ah ben, t'as pas eu chanceux.
38...
Tu dis 7 ans?
Ouais, 7 ans, 38,5.
Parouette, ça veut dire 5 et plus.
5,4
par année.
Il était à 1,8. Il n'a pas joué l'an passé.
Oui, aïe, aïe, OK, c'est tout qu'un race, parce qu'on parlait de Taylor Hall, on parlait de tous les joueurs. Le Canadien, je pense qu'il y a 10 millions sur sa masse, puis il restait 3-4 joueurs à signer, là, Mété, Ouellet, je pense, avec Anderson, puis j'en oublie Charles Hudon.
Oui.
C'était 10 millions, là, on vient d'en dépenser à moitié et plus sur un gars, donc... Ça, à part d'échanger un 3,4 millions qui s'appelle Paul Byron ou des joueurs comme ça, je vois pas comment on peut rentrer une super vedette demain. Là.
Fait que là, ça défait mon autre question. Je te la pose quand même.
Ben, vas-y. Okay.
Non, mais la même qu'à Mario Tremblay, mais tu peux m'amener ailleurs. C'est une suggestion pour lancer la discussion. Parce que moi, j'en viens à mon humble constat sur les récentes acquisitions puis les décisions de Marc Bergevin. C'est que je pense qu'il a amélioré l'équipe à des endroits bien précis. Deuxième gardien de but, sa brigade défensive plus grosse, plus solide. Là, un ailier qui est capable de jouer du coup d'épaule puis aller en avant du net, puis tu sais, c'est peut-être dans le top 6, j'aime ça, mais tu sais, les points de Domi, les points d'Anderson, pas sûr qu'il va avoir 30 points de plus sur le tableau que Domi. Peut-être qu'il va être utile différemment, de joueurs différents. Moi, je pense qu'il y a de la place pour une addition en attaque, parce que le power play, il n'y a rien de concret pour l'améliorer, à moins qu'Anderson le transforme en se plantant devant le net. Tu sais, Petrie, Weber, t'es déjà là, fait que ça va pas gonfler le power play de 25%. Fait que moi, je souhaite une acquisition qui puisse aider le jeu de puissance, qui puisse aider l'attaque du Canadien. Je donne 3 choix de réponse et c'est des prix différents, des situations différentes. Un gros UFA, un gars qui cherche encore à s'établir, puis un vétéran qui peut peut-être aider une autre année. Ilya Kovalchuk, un droitier qui joue à gauche, qui peut jouer sur le power play. Anthony Duclair, un jeune qui donc a refusé l'offre qu'Ottawa lui a soumise. Et Taylor Hall. Quelle direction tu prendrais? Ou ailleurs?
Parce que du clair, Kovalchuk, ça m'intéresse pas. J'irais avec Taylor Hall. Moi, je pense que, tu sais, on a fait des acquisitions vraiment intéressantes au niveau des défenseurs quand on regarde le line-up, tu sais, avec Chariot, Weber, Petrie, puis Joel Edmondson. Mais il reste que... Pis je parlais avec un chum de la Ligue aujourd'hui qui me disait... Tu sais, les Canadiens, ils sont gros, c'est des défenseurs super durs à jouer contre, mais il y a pas de QB quand même là-dedans. Tu sais, oui, t'as Petrie, mais c'est-tu un vrai premier défenseur qui contrôle un avantage numérique? Non. Tu sais, fait qu'on n'a pas ce gars-là encore, même si, puis ça arrivera pas, là, pour moi, la brigade défensive, c'est fermé, on ferme ça à double taux, puis on n'en parle plus, mais je veux dire, il y a quand même ce petit côté-là qu'on manque, ouais. Le vrai défenseur corps arrière qui peut aller faire la différence sur l'avantage numérique, mais oui, je pense que du côté gauche, il y a encore de la place. À droite, on est correct. On vient de signer Anderson, on a Gallagher, on a Harmia qui est là. Moi, j'ai pas de problème. On a Tatar, on a Drouin. Puis après ça, moi c'est l'école. Tu sais, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que ça nous prend un top 9 qui peut marquer des buts, qui peut être dangereux, qui peut faire la différence soir après soir. C'est là qu'on est. Puis moi Arthur Lehkonen, à 2,6 millions, je pense, par année, c'est pas un joueur que je vois prendre une place dans un top 9. Autant, tu sais, moi, j'aime mieux voir Paul Byron.
C'est un Tom Pyatt, Lehkonen, je le dis, ça fait des années. Il travaille fort, tu peux, tu sais, effort 10 sur 10, 11 sur 10, mais il y a pas grand-chose qui aboutit, tu sais.
Exact. T'sais, moi, je trouve qu'on tasse facilement un Paul Byron. Au final, t'sais, c'est un gars qui a fait des saisons d'au-dessus de 20 buts, même, je pense qu'il a fait 27. Mais il reste qu'on a un problème de ce côté-là. On a deux très bons joueurs en Drouin, en Tatar, mais il reste que, oui, il y a de la place pour améliorer encore le flanc gauche demain. Mais là, on commence à manquer dessus. Donc, ça prendrait une transaction pour sortir de l'alignement des Lehkonen, des Byron, qui coûtent quand même cher pour l'apport.
Les agents libres, généralement, ne viennent pas au Canada, sauf exception. Mm-hmm. Donc, en principe, Taylor Hall ne viendra pas au Canada. Mais, pour les plaisirs de la discussion, penses-tu qu'il y a une chance qu'il choisisse une équipe canadienne? Dans certaines rumeurs, le Canadien serait l'équipe canadienne qui tenterait d'aller le chercher. Penses-tu que lui qui veut gagner, peut-être autant que le Canadien, peut-être il y a un alignement des as, et lui comme individu, il n'a pas goûté aux séries souvent, le Canadien veut redevenir une équipe qui aspire sérieusement. Penses-tu qu'il y a un timing là, dans l'air? Penses-tu que quand il regarde l'alignement du Canadien, il dit « ouais, c'est un club qui pourrait gagner » ou il regarde bien vite puis il regarde ailleurs?
Je pense que dans la situation de Taylor Hall, il a été publiquement disant qu'il était prêt peut-être à prendre un contrat à plus court terme.
Oui.
Tu sais, puis dans le marché d'aujourd'hui, avec un flat cap, je m'attendais pas à avoir un contrat de 7 ans pour un gars comme Anderson. Donc là, ça vient un peu changer ma vision que j'avais avant qu'on commence l'entrevue, bien honnêtement. Moi, je m'attendais à ce qu'un Taylor Hall, tu dis, ben, sais-tu quoi, on va te donner un contrat de 2 ans, puis c'est la meilleure plateforme pour Taylor Hall. Donc que lui, ça soit au Canada ou ailleurs, s'il prend un contrat court terme, lui, ce qu'il veut, c'est avoir de la glace, être le gars qu'on tape dans le dos dans toutes les opportunités pour aller gonfler ses statistiques, pour avoir une chance de remporter et aller faire un bout en séries éliminatoires, mais en étant le joueur clé. C'est ça le point important pour Taylor Hall en ce moment, s'il veut signer un contrat plus à court terme. Donc, pour moi, le Canadien devient intéressant pour un Taylor Hall parce que tu le rentres dans cet alignement-là demain matin, il va jouer avec des joueurs de talent qui vont être capables de lui donner la rondelle, de le faire bien paraître, qui vont être capables d'utiliser sa vitesse. Donc, oui, le Canadien devient intéressant pour un contrat à court terme parce qu'on a les atouts pour lui. Mais oui, si on parle de tout le outside, là, toute la poutine par rapport à Montréal, oui. les impôts, ces choses-là, là, je pense que peut-être c'est un marché qui peut faire peur. Mais tu sais, il a joué au Canada, il a joué pour les Oilers d'Edmonton, Taylor Hall déjà. Donc, c'est un joueur qui connaît un peu le marché canadien. Puis c'est un gars qui est capable de performer.
À 5,4 par année, Guillaume, là, on s'entend-tu qu'il l'a eu en argent, comment dirais-je, que ça y coûte en fiscalité, là. Il l'a eu sur le salaire, là. Je veux dire, je pense qu'on l'a payé un petit peu plus, non?
Ouais, puis on lui a donné un contrat très, très jeune aussi. 7 ans, très jeune. Puis,
on n'a pas parlé de Gallagher tantôt. N'as-tu parlé de Gallagher quand on parlait, on calculait l'argent qui restait? Parce que Gallagher, là, lui, il reste une année de contrat.
Ouais,
mais, lui, il vient de voir le contrat, quelque chose vient de signer.
Oh que oui, lui, d'après moi, il a ouvert plus de champagne que Anderson. 7 ans à 5,4 par année, il se dit « Ouais, OK, je suis correct. » Non, c'est sûr, Gallagher, ça va être ton attaquant qui va être le mieux payé, je pense, de l'équipe. C'est ton horloge, c'est lui à chaque match qui se présente, c'est le joueur parfait pour le Canadien. Puis Marc Bergevin s'est pas gêné pour le dire non plus que c'est le prochain dossier important. Donc, je pense que Gallagher dort sur ses deux oreilles, sachant très bien qu'il y a un contrat à long terme qui s'en vient du côté du Canadien avec un montant d'argent que lui va désirer dans ses conditions. Donc oui, puis c'est correct, Gallagher l'a mérité. Moi, ça a jamais... C'était pas mon préféré en début de carrière, ben honnêtement, avec son sourire fendant un petit peu, puis il me dérangeait. Puis là, je trouve qu'il se concentre plus à jouer au hockey, à laisser aller son talent, son éthique de travail, son leadership. Puis c'est un joueur que j'ai appris à aimer, puis que j'apprécie aujourd'hui énormément, puis que je trouve que c'est vraiment le cœur même là, de l'attaque du Canadien, c'est un Brandon Gallagher.
Alors, la clé pour s'améliorer, tu l'as bien souligné tout à l'heure, Guillaume, c'est que pour rentrer du nouveau talent, il faut que tu en sortes. Il faut que tu sortes des dollars. Alors, on va voir ce qu'il va réussir à dégager comme marge potentielle de manœuvre, peut-être pour l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Puis, il n'est pas obligé de faire ça avant le marché parce qu'il pourrait signer Hall puis ensuite s'organiser pour délester du salaire éventuellement. Il y a des clubs comme les Sénateurs qui vont être obligés d'embaucher pour atteindre le plancher salarial, Guillaume.
Ouais, exactement. Puis on a fait l'acquisition aujourd'hui de Eric Gudbranson. C'est un nom que j'ai de la misère à dire. Tu sais, moi je trouve que Pierre Dorion là, depuis qu'il est en poste, fait du très bon travail. A réussi à faire des transactions super intéressantes. Puis tu vas chercher un gars local. Il vient de Orléans, je pense, Eric. Il reste un an à 4 millions par année. Il va tomber joueur autonome sans restriction après. Mais il reste que c'est un pari intéressant. C'est une opportunité que t'offres à un joueur de chez vous de venir performer dans ta cour. Puis il y a des équipes comme ça, comme les Sénateurs, qui doivent atteindre le plafond, donc qui vont être capables de prendre des joueurs, peut-être que, tu sais, un Paul Byron pourrait être très bon avec les Sénateurs d'Ottawa avec son contrat.
C'est drôle, on le voit là tous les deux.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Ou Lekkonen, mais en tout cas, regarde.
Prenez celui que vous voulez.
mais l'autre affaire, j'aimerais ça insister sur une chose. Ouais. On a beaucoup parlé du fait québécois, puis il y en a un que j'espère qu'on va le voir atteindre jouer son meilleur hockey en carrière éventuellement dans l'uniforme du Canadien, c'est Jonathan Drouin. Puis j'espère qu'on ait un petit peu plus de munitions, puis j'en souhaite une autre munition là, qui vienne aider le jeu de puissance. Parce que c'est sûr que quand t'as juste une coupe de talent en avant, on est exigeant avec ces gars-là. C'est pas, tu l'as souligné la semaine passée. Tu sais, à Tampa Bay, il y avait beaucoup de talent offensif autour de lui. Puis quand il y aura plus de talent, ben, je pense qu'il y aura moins de pression sur les quelques individus qui sont vus comme des gars de talent. Tu me suis, Guillaume?
Ouais, exact. Puis tu sais, un gars comme Drouin a eu quand même
le Suzuki arrive, c'est du talent, tu sais, ça peut mixer les deux.
Il y a eu de la chimie avec un gars comme Max Domi. Puis je pense qu'en rentrant un gars comme Anderson, tu viens changer complètement la dynamique d'un gars comme Jonathan Drouin. Pourquoi on fait cette transaction-là pour moi? C'est que le duo, là, ça va être Drouin et Suzuki ensemble. C'est eux autres qui vont créer les jeux, c'est eux autres qui vont être ensemble, qui vont s'occuper de la créativité, d'amener la rondelle dans le territoire offensif, de patiner avec la rondelle. Ce qu'un gars comme Max Domi aimait faire. Max Domi aimait ça prendre la rondelle, aimait ça patiner tout seul, essayer de déjouer des défenseurs. Mais pendant ce temps-là, Drouin a pas la rondelle sur sa palette, puis Suzuki l'a pas sur sa palette non plus. Tandis qu'un gars comme Anderson, ça va être un gros bonhomme qui va aller chercher d'un coin, qui va attaquer le filet, qui va être au gardien, qui va laisser les deux autres travailler. Moi, là, c'est pas compliqué. Anderson, là, moi, quand je suis arrivé avec le Wild, là, Martin Havlat était là. Personne voulait jouer avec parce que tout le monde voulait la rondelle. Moi, je suis allé voir Martin, j'ai dit, je veux pas la rondelle. En dedans de 10 pieds, tu m'adonnes, sinon, regarde-moi même pas. Fait que c'est ça. Mais Anderson, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Patine la rondelle, attaque le filet, laisse les deux autres être créatifs, laisse les deux autres faire leur travail. Puis c'est là, je pense, qu'on va amasser des points, puis que le duo Drouin-Suzuki va être très performant. Puis c'est là que le contrat de Anderson, le montant, le nombre d'années, on va l'oublier parce qu'il va être capable de faire le travail. Puis on va avoir un deuxième trio qui va être extrêmement dangereux.
Oh, un Guillaume, la tendresse convaincu et convaincant. Et sais-tu quoi, parlant de convaincu, Marc Bergevin, peut-être que la blessure a fait hésiter le Canadien sur la pierre, mais ça les a pas fait hésiter sur le contrat à Anderson. Ça, on l'a vu, donc c'est la bonne nouvelle. J'imagine que d'un point de vue médical, on est totalement rassuré. Ouais. Comme on l'a été avec Galchenyuk quand on l'a repêché au troisième rang à la suite d'une année presque arrêtée à cause d'une fracture. Comme quoi, si jamais on sert de la blessure à la pierre pour justifier, ça a l'air que ça dépend des blessures, ça dépend des cas. Non, mais il faut le souligner.
Non, c'est vrai.
C'est tout est dans l'œil de celui qui regarde. Puis juste une chose sur Domi, j'ai adoré ce que tu viens de dire par rapport à... Mais Domi, la chimie Drouin-Domi, il y avait peut-être une chimie de personnalité, mais ça, là, je n'ai jamais vu la chimie de ces deux gars-là.
Il y a eu quelques matchs comme des flamèches.
Tu peux pas avoir de chimie avec Domi, si, il joue avec des œillères.
Oui, c'est difficile. Je te le donne, c'est difficile. Puis je pense que c'est là que Jonathan va... Je pense qu'on va vraiment avoir le vrai Jonathan Drouin, comme on l'a vu un peu dans les séries qu'on a vu cette année avec un gars comme Suzuki. Ça prend du talent pour jouer du talent.
T'as raison.
T'as beau mettre un travaillant, t'as beau mettre un gars qui... Ça prend un gars qui peut comprendre un gars de talent. Jonathan Drouin, là, c'est un talent brut, c'est un talent pur, qui n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. Là, je sais, je reçois des médailles, voyons donc. Non, c'est vrai, Jonathan Drouin, c'est un pur. C'est un diamant qu'il faut que tu mettes un autre diamant à côté, puis on n'en avait pas peut-être pour performer avec lui. Puis là, on en a un qui est droitier, que quand il se lève la tête, il regarde à gauche, c'est qui est là, c'est Drouin. Fait que c'est Suzuki puis Drouin qui ont arrondi sa palette. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut quand on est sur la glace.
Tellement, puis on a vu des flashs de ça dans le tournoi cet été. Maintenant, il restera à ajouter un peu de régularité aux beaux flashs qu'on a vu, Guillaume. Puis des fois, un joueur de talent, ben, t'es pas obligé de le voir tout le match, mais il s'agit de le voir quand ça compte. C'est ça qu'on souhaite, non? Mais c'est ça, pareil.
C'est 100% ça, tu sais. Tu sais, un marqueur de 30 buts, là, il reste quand même 52 matchs qui n'a pas de but, là. Mais il faut qu'il trouve une façon dans ces 52 matchs-là de, qu'on parle de lui.
Puis là, t'es fin, parce que moi, j'ai déjà épluché tous les buts par saison de Pacioretty. Puis, tu sais, quand il en marquait, justement, il y avait, premièrement, t'enlevais le but dans un filet désert. Puis l'autre affaire, souvent, il y avait une couple de grosses soirées contre des petits clubs. Fait que finalement, ton marqueur de 33 buts, là, ben, il marque dans 23 matchs, tu comprends?
Ça veut dire 25 buts, Mario, là, c'est 5 filets déserts, 5 fois de touche la culotte. Ça va vite quand même quand
il compte pareil quand tu négocies, mon gars,
il compte pareil. Tu sais, moi, quand j'ai compté le but, en match sur concours contre Tom Boston, elle m'a frappé à la culotte, là. Mais au final, elle était dedans, hein.
Elle était dedans. Et ça voilà. C'est ça qui compte quand on les prend tous. Guillaume, Pierre-Cédric Labrie, qui était avec vous hier, un ancien de la Ligue nationale, il joue en Allemagne avec Maxime. Il était l'invité de votre podcast. Vous avez parlé d'un paquet de sujets, puis il y avait une bonne anecdote. Tu me permets de faire jouer un extrait. Alors que, en fait, vous parliez de leadership. Et Mike Keane, vous l'avez tous connu ici à Montréal. D'ailleurs, il a été lui aussi, là, quand il était nommé capitaine, les fameuses controverses anglophones, francophones, capitaine, etc. Puis toute l'équipe est sortie. Mais c'était un gars qui était un passionné de hockey, Mike Keane, pour ceux qui l'ont connu, au point où il a continué à jouer après sa carrière dans la Ligue nationale avec le Moose du Manitoba. Et c'est là que l'histoire arrive. Pierre-Cédric joue pour Vancouver, cédé à la filiale, et voici l'histoire.
J'ai tombé à Vancouver, je me suis fait couper, je me suis ramassé dans la Ligue américaine. Arrive dans la Ligue américaine, capitaine Mike Keane, là tu rentres, puis t'as du leadership à l'état pur, là, si on veut. Là. Oui. Le gars, je l'ai vu bloquer des shots avec sa face, là, puis le casse explosé en piqué, puis patine au banc, puis je pense que c'était Michael Grabner qui voulait embarquer sur la glace, puis Mike Keane, il l'a rassis. S'il est encore sur la glace, il l'a rassis. Il a volé son casque, l'a remis sur la tête, puis il est reparti en piqué. Quand t'es un leader de même, là, je veux dire, t'as besoin d'aimer ça, le hockey, parce que sinon, tu vas retourner chez vous.
Pas pire. Fait qu'un casque cassé en deux, j'en ai vu des affaires sur une glace, mais j'ai vu bien des dents traîner sur une glace, Guillaume. Un casque fracturé en deux, oups! C'est mon écouteur qui a un petit problème. Je m'excuse, je vais rebrancher ça dans la bonne prise parce que j'en perdais des bouts. Tu m'entends-tu? OK, voilà. Fait que, ouais, c'était toute une anecdote. As-tu déjà vu ça, toi, un casque se fracturer?
Non, j'ai jamais vu ça. Mais honnêtement, pour les gens là, qui n'ont pas eu l'opportunité d'entendre l'histoire de Pierre-Cédric, c'est exceptionnel là, que ce gars-là se rende. Il a été recruté dans le junior majeur à Bécomo à 20 ans. C'est malade, là. Il travaillait à la ville de Bécomo, il peinturait les murs, puis il est allé voir Éric Dubois puis le GM pour avoir une chance dans le camp d'entraînement. Puis après ça, je te dis, il était pompiste à Quaticook dans le Junior 3A. C'était une histoire de fou, là. Il nous a conté ça hier. Les gens qui ont la chance, allez écouter ça sur soit la plateforme C23 avec Cogeco où que tous les balados sont là, ou allez sur YouTube, La Poche Bleue. C'est exceptionnel, là. Puis hier, le balado avec Stéphane Fizet aussi, qui a été généreux. Mais mon frère a joué à Manitoba aussi avec Mike Keane, puis il me disait la même chose, à quel point c'était un leader, puis à quel point c'était fou, ce gars-là, dans un alignement, là, tu sais, qui c'est comme... C'est juste hockey, là. Il n'y a rien d'autre. C'est la victoire puis that's it, là. T'sais. Peu importe qui est sur son chemin, c'est la victoire, là, t'sais.
C'est tellement bon. Vous pouvez aller écouter ça sur toutes les plateformes, donc sur C23, la plateforme balado de Cogeco, La Poche Bleue. Les gars sont là tous les mercredis. Maxime et Guillaume avec nous, amateurs de sport. C'est un gros cadeau pour nous autres. Toujours le fun. Mais j'ai juste envie d'ajouter quelque chose sur Pierre-Cédric Labrie au moment où on a parlé beaucoup de bagarres dernièrement. Puis pas pour jeter un pavé dans la mare, là. Mais il reste que des histoires à la Pierre-Cédric, je pense, c'est au bout du point qu'il a réussi à non, c'est pas faux de dire ça un peu. Il dit qu'il savait jouer au hockey, mais aujourd'hui, c'est plus possible d'y aller de cette façon-là, je pense.
Exact. Puis il en a parlé dans hier, justement. Il disait il a été repêché par les Remparts, puis il n'a jamais fait l'équipe parce qu'il pense qu'il a pas jeté les gants. Il voulait scorer des buts. Puis après ça, il est allé à Bécomo après ça, puis il s'est fait appeler par le club senior de Forestville. Puis là, il a donné 2-3 tapes à Marboulette, puis il a dit c'est quoi, j'haïs pas ça. Puis là, il s'est présenté au camp du Drakkar à 20 ans. Puis il a montré ce côté-là. Puis là, Éric Dubois l'a gardé dans l'alignement. Il a fait l'équipe. Puis ça, il s'est trouvé un try-out après ça. Il s'est fait signer après ça dans la Ligue américaine. C'est le même qui est rentré. Puis il comptait que quand il était dans la Ligue américaine avec John Cooper, il a dit à John, je peux pas jouer ce soir. Il dit, mon épaule, oublie ça, ça marche pas. Mais là, il dit, ouais, c'est parce que le Lightning vient de te rappeler. Puis tu joues à soir contre le Canadien. Puis tu revois la vidéo, c'est le combat contre Brad Staubitz quand c'est son premier match. Puis il dit, ça a pas bien été, tu sais, mais il avait l'épaule pétée, il se battait un bras, tu sais.
Incroyable.
Mais tu sais, pour jouer dans la Ligue nationale, juste un match, c'est comme j'y vais, tu sais. Mais oui, c'est certain que ces joueurs-là. Mais au-delà, puis je disais hier à Pierre-Cédric, j'ai dit, cette histoire-là, là, faut que ça soit connu parce que c'est tellement une marque de détermination, de résilience. Moi, ça m'a. C'est une matière à conférence des entreprises, là. C'est comme, c'est fou ce soir-là, honnêtement, là. Et aller écouter ça, c'était débile, là. Débile la générosité, puis qui s'ouvre de même. Moi, j'ai trippé. C'est une de mes entrevues préférées qu'on a fait jusqu'à maintenant. On était supposé avoir Mathieu Darche, puis avec le repêchage qui a duré 7 heures au lieu de 4 heures, Mathieu n'a pas été capable de venir. Fait que Pierre-Cédric est rentré, il est là-bas.
Les gens vont aller écouter ça, Guillaume. Je suis obligé de nous envoyer à la pause. Tu connais notre réalité, bien sûr, radiophonique.
On ferait 2 heures sinon, Mario. Hein?
Ben, tu sais que nous autres, donne-nous pas un pouce. Salut, mon Guillaume.
Salut.
Bonne soirée, mon chum. Bye-bye, à bientôt.